Est-ce que l'apport nutritionnel des aliments...
C'est tout bon.
Est-ce que l'apport nutritionnel des aliments issus de la biochimie alimentaire peut égaler l'apport des aliments naturels ? Faudrait préciser la question, mais si j'essaye d'interpréter ce que tu veux dire, ce serait est-ce que la nourriture dite la ultra processed food égale en fait genre des carottes et des pommes de terre Bah après, égaler, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait savoir sur quel élément on se base. Non. Enfin, en général, ce sera toujours plus intéressant de consommer des produits de base et d'en faire des plats plutôt que des plats préparés. Pour un tas de raisons, notamment, comme tu ne maîtrises pas ce qui a été fait, tu ne peux attendre au pire, et en général la biochimie entre guillemets alimentaire va s'arranger pour que le goût soit optimisé, mais va en fait on s'en foutre de nutritivement ce que ça va apporter, ce qui fait que tu auras des aliments qui vont pouvoir être surchauffés à des températures très élevées, donc en fait ça va perdre en fait tout son intérêt nutritionnel. Donc tu auras des farines typiquement qui vont être en fait dans la graine de blé, tout un tas de choses. Il y a des fibres, il y a des minéraux, il y a des glucides beaucoup aussi. Mais c'est pas forcément très bon à manger. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'est pas forcément très bon. Disons que la partie la plus bonne à manger dans ça, c'est les glucides. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a de plus en plus, tamisé, enfin on a de plus en plus, j'ai un terme qui me manque, rendu pur les farines, et en fait en ne sélectionnant que les glucides, en rejetant tout le reste, en fait, toutes les fibres et tout ça, et ce qui fait qu'en réalité, maintenant la farine la plus pure que tu puisses trouver, donc la T40 ou la T00, en fait c'est quasiment du sucre en fait. Ça porte pas le nom de sucre, mais c'est quasiment ça, du point de vue glycémique. Ouais, raffiné, merci Melk, c'est ça. Plus une farine va être raffinée, plus... en fait, elle sera intéressante.
Alors, est-ce qu'il y avait des questions des gens? Tac, tac. Oui, Olifax qui voulait intervenir.
Merci pour... Vous m'entendez bien?
Oui.
Merci pour ce petit livre blanc, il était très intéressant. Moi, j'ai deux questions, une qui est un peu taquine. Du coup, j'imagine que tu te passes de ton paquet de cookies tous les jours maintenant. Et une autre, un peu plus terre-à-terre, par exemple, moi, je mange avec les fruits du marché, les fruits et légumes du marché. Du coup, je tourne en fonction des saisons. Par contre, au niveau d'apport, tu vois, tout ce qui est, au niveau de l'apport et de la diversité des produits, et ben, l'hiver, comment dire que c'est maigre? C'est maigre au niveau du choix. Du coup, est-ce que toi, tu te passes complètement en fait, du fait de suivre ou pas les légumes et fruits de saison? Ou est-ce que c'est moi qui passe à côté de certaines choses?
Non, c'est quelque chose que j'essaie de faire de regarder, mais c'est pas quelque chose que je. Non, c'est clairement pas quelque chose que je regarde beaucoup. Ça fait partie des choses que je souhaite regarder dans le futur, mais globalement, je pense que tu dois pouvoir trouver à peu près de tout à toutes les saisons. Après, le truc, c'est que si tu veux trouver de tout à toutes les saisons, ça va devoir passer par de la répétition, ça c'est clair, en hiver, ouais. Ça peut être chiant. Voilà, mais j'ai pas plus sur les fruits de saison, pas plus de recul que ça.
Très bien, merci.
Alec, tu voulais intervenir?
Ouais.
Bon, j'ai une autre question, mais pour répondre à celle précédente, juste avant, tu as légumes d'hiver, tu as carottes, pommes de terre, poireaux, courges, potirons. Donc, c'est beaucoup à base de soupe, tu as les endives.
Oh, t'inquiète pas, hein, je mange, j'ai pas de problème. Hein.
Ouais, c'est juste pour. Non, c'est tous les exemples de légumes, c'est pour ça. Vu que mon père est maraîcher, j'en connais quelques-uns.
Ouais, mais je me procure maraîcher, donc c'est pas le truc, c'est juste une question de choix où tu manges pendant plusieurs mois, c'est souvent la même chose.
C'est un peu moins coloré qu'en. Moi, je voudrais revenir sur la. Bon, déjà, bravo pour le livre blanc, très intéressant. Ça. J'ai un peu potasser le sujet, donc ça m'a rappelé plein de trucs. Moi, je fais un régime pour grossir et pas pour maigrir, donc c'est aussi compliqué que pour maigrir. Moi, je voulais juste revenir sur une partie, sur la partie par rapport à l'eau, qui est au début. Tu as dit que c'était l'hypothalamus qui régulait l'eau. De mémoire, moi, on m'avait dit que c'était l'hypophyse. Donc peut-être que les deux jouent un rôle dedans, c'est possible. À fact-checker.
Ouais, en fait, et... Vas-y. Non, bah, c'est vraiment, c'est pas ultra clair sur ce phénomène. Et en fait, c'est ce que j'essaie de mettre en valeur avec l'extrait Wikipédia, c'est qu'en gros, c'est pas le genre de réponse qui a. De question qui a une réponse. Justement, j'ai mal regardé. Il y aurait en fait plusieurs manières d'avoir soif, plusieurs manières d'avoir faim, et voilà. Et l'hypothalamus en serait une des principales. Alors après, peut-être qu'il y a aussi d'autres manières. Bah, tu vois, quand t'as la gorge sèche, je pense pas que ce soit ton hypothalamus qui te dise ça.
C'est. Voilà. Bah moi, j'ai une maladie par rapport à ça justement. C'est une maladie qui fait que j'ai tout le temps soif. Donc, quand j'étais au summum, je tapais le pack d'eau en deux jours, donc c'était un peu trop. Donc, moi, on m'a dit que c'était l'hypophyse, en fait, qui gère les deux hormones liées à l'eau. Une hormone qui va dire faut que tu boives et une hormone qui dit que tu n'as plus besoin de boire. Et donc, c'est normalement ça qui fait que qui va te dire si tu as soif ou pas, en fait. C'est cette hormone qui va réguler ça dans ton corps. T'as dit que c'était les gorges qui étaient très vite atteintes, c'est vrai. Il y a les poumons aussi, il faut faire attention. Enfin, c'est dans les cas très graves. Mais si t'es très souvent sous-hydraté, les poumons peuvent en prendre un coup aussi. Et voilà, c'est à peu près sur les points que je voulais revenir, c'est tout.
Du coup, tu disais que tu as besoin en fait, de consommer énormément d'eau. C'est ça? Non, c'est pas besoin, c'est tu as envie. Enfin, tu...
Non, en fait, c'est. Donc la maladie s'appelle le diabète insipide. Il n'y a aucun rapport avec le sucre. Ça c'est pas lié à ça. C'est assez intéressant, vous pouvez regarder quand vous avez le temps. Donc en fait, c'est. En gros, j'ai plus la glande hypophyse dans mon corps. Elle a été détruite par mon corps. Donc j'ai plus les hormones qui permettent de réguler l'eau. Donc, mon corps croit qu'il a toujours soif, en fait. Du coup, j'ai toujours un peu, un peu la bouche pâteuse. Tu sais, quand tu as envie t'as des signes comme ça qui fait quand tu as envie de boire. T'as la bouche pâteuse, la gorge un peu sèche, les lèvres gercées. Ça, je l'ai toujours, en fait. Et donc, j'ai appris à vivre avec. Et comme tu disais, pour identifier les signes, pour voir si on est bien hydraté ou pas, moi, je me fie par rapport à ça, en fait, pour savoir si j'ai besoin de boire ou pas. C'est-à-dire que si j'ai la gorge sèche, les lèvres gercées, ça arrive assez vite. Et après, il y a aussi, sur la peau, tu peux le voir sur les bras, par exemple, c'est un peu comme quand on pèle, mais ça ressemble un peu, mais ce n'est pas vraiment ça. Et donc, je me fie assez à tout ça pour savoir si j'ai soif ou pas. Et donc, avec l'habitude, j'ai aussi appris à boire mon litre et demi d'eau par jour, mais espacé en fait.
Ok. Et à côté de ça, tu disais, tu as besoin en fait de faire attention à ce que tu manges pour chercher à grossir.
Parce que c'est-à-dire en fait, j'élimine trop. Dès que je mange, j'élimine trop mes aliments. Donc, je suis obligé de faire des petits déj un peu plus copieux, pareil des repas. et faire des pauses à 10h et à 16h de fruits secs. Ce qui permet
c'est-à-dire
de.
C'est-à-dire tes limites en fait, c'est-à-dire que tu.
Bah, en fait, j'arrive pas à prendre de poids, j'ai beau manger tout le sucre gras, même si c'est pas que lié à ça, bien sûr. Mais même en faisant des repas équilibrés, en mangeant mal, comme on dit, bah, en fait, je prends pas de poids, mais j'en perds. Donc, pas 30 ans.
Ouais, je vois,
donc,
je vois.
Donc, je suis obligé de. Donc, j'ai justement. J'ai fait comme toi pour. Moi, c'était pas pour les cookies. Mais j'ai regardé le sujet. Et donc, c'est comme ça que. Du sport mais du coup, escalade.
Attends, du coup, tu fais du sport par rapport à ça?
Non, 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 ça s'endort.
Ok. Parce que pour le coup, ça doit pas aider, je pense.
Oh, bah,
du coup, tu vis de tes sacs de glycogène, quoi, en gros. Et du coup,
ouais, justement,
du coup ça va être le tampon qui va.
Faut que j'en prenne plus, mais en même temps, je transforme le gras que je fais en mangeant plus en muscle. Donc, ça permet de compenser et de prendre du poids sain, on va dire. Et pas juste prendre des kilos pour prendre des kilos.
Oui, c'est ça, c'est que souvent, on dissocie masse saine et masse. Un peu moins saine.
C'est ça.
Donc masse saine, masse musculaire, masse un peu moins saine, masse grasse. Mais par contre, en effet, si tu n'as pas de gras du tout, pour le coup, c'est pas non plus sain. et en plus, souvent, dans les cas comme le tien, si je dis pas de bêtises, en fait, tu dois avoir du coup, soit tout ton glucose dans ton sang et pas forcément dans ton tissu adipeux. En fait, c'est pas forcément meilleur. Enfin, c'est-à-dire que si tu fais pas non plus gaffe à ce que tu manges, si tu manges que des Kinder Bueno, en fait, tu ne vas pas grossir, mais ce sera pas pour autant. Enfin, en fait, ce sera presque pire. Parce que tu vas avoir tout dans ton sang et c'est. Enfin. Ça va attaquer tes tissus, ça va créer des équipements. Enfin, je pense que c'est ça que tu as probablement vu, peut-être.
Non, pas forcément, c'est juste. Je voulais prendre du poids, donc j'ai dû m'intéresser à la chose, quoi. Après, j'ai un bon rapport poids-puissance qui est important pour l'escalade, mais bon, faut pas non plus trop abuser.
Oui, oui, du coup, oui. Rien ne vaut un peu d'orge et de malt pour prendre un peu de panse. Oui, bah après, moi, clairement, enfin, je suis pas forcément là pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas forcément l'objectif. Après, ce qui est intéressant, c'est de plus comprendre en fait le phénomène. De comprendre pourquoi est-ce que en fait quand tu vas boire de la bière tu auras du coup plus faim, que du coup tu seras chargé en glucides, ce genre de choses.
J'avais une question et puis après il y a Felspace qui voulait intervenir. Au début de ton exposé, tu parlais du glucose et dis-moi si je me trompe, tu disais que si tu manges ou qu'en tout cas tu as dans ton corps trop de glucose, ça va te couper la faim parce que je suppose que, comme tu disais, c'est une des premières nécessités du corps d'avoir du glucose. Mais du coup, je suppose que c'est traître parce que tu vas manger trop sucré et après tu n'auras plus faim alors que tu n'auras pas eu plein d'autres apports que le glucose qui te feront défaut. Mais le glucose prime et te coupera la faim. C'est traître.
Ouais. C'est ça. En effet, ça découle un peu de ce que j'ai exposé, c'est-à-dire que en nutrition, il y a un concept de calories vides. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros, un carré de sucre, c'est des calories vides. C'est-à-dire que c'est de l'énergie, mais ça n'apporte pas des nutriments dont ton corps a besoin. Et donc ça explique en réalité des problèmes de santé. Dans les mondes occidentaux actuels, du type, on a de plus en plus de personnes en surpoids, mais d'un autre côté, qui ont d'autres soucis de santé. Alors que ça ne devrait pas, puisque on pourrait penser que que c'est parce que tu ne manges pas assez que tu as des problèmes de santé liés à ce que tu manges. Non, en fait, si tu manges, si tu en fait optimises, enfin si tu concentres dans ce que tu manges que du glucide, eh bien oui, tu n'auras plus faim, mais tu n'auras rien mangé pour autant. Voilà.
Ok. Vas-y, fais le space. Pardon.
Oui, c'est par rapport à l'activité physique pour les gens qui sont atteints de diabète. Alors déjà, il y a plusieurs types de diabète. L'activité physique, ça concerne surtout les diabètes de type 2, parce que ce sont des diabètes qui sont non insulinodépendants. Donc ça veut dire que la personne va toujours sécréter de l'insuline, mais va ne pas avoir la capacité de l'absorber. Et les traitements prescrits pour ça, ce sont des antidiabétiques oraux, contrairement au diabète de type 1 où on fait des piqûres d'insuline. Et ces antidiabétiques oraux doivent être couplés à une alimentation saine et à une activité physique régulière, si on veut réduire l'apparition des complications dues au diabète. Donc l'activité physique et le diabète, c'est pas forcément à dissocier.
Ouais, complètement, complètement. En fait, en gros, ce que tu évoques, en effet, c'est donc les maladies liées à ça, donc enfin la maladie liée au glucides dans le sang, la plus répandue, donc le diabète, qui en réalité, enfin, c'est un peu traître d'appeler ça diabète type 1 et type 2, parce que en réalité, c'est quand même assez différent. Diabète de type 1, c'est un truc qui touche quand même. Je crois que c'est 5% des diabétiques.
6% et 80%, et c'est 6. Plus de 90% l'autre. Le diabète de type 2, c'est 90%, c'est, et après, il y a 2% d'autres types de diabète.
Donc pour le coup, le diabète type 1, celui-ci, tu ne peux pas y faire grand-chose. Malheureusement, voilà, tu es né comme ça, ton corps n'a pas généré l'insuline nécessaire au stockage, à la gestion du glucose dans ton sang. Et donc pour le coup, là, ouais, c'est assez difficile de s'en sortir. De l'autre côté du spectre, tu as donc diabète type 2, qui pour le coup est beaucoup plus répandu, parce que c'est quelque chose qui va découler du mode de vie, donc du mode d'alimentation en fait. Hein. Et du coup, c'est dommage parce qu'à la base, on parle d'une maladie plutôt génétique à laquelle on ne peut pas faire grand chose. Et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que cette maladie, elle est générée par nos modes de vie, elle est tout aussi en fait difficile à vivre. Et oui, en général, diabète de type 2, quand tu es diabétique type 2, en général, tu as dans les phases au début, tu peux reprendre la main en appliquant en fait tout un tas de choses pour lisser tes courbes de glycémie et donc augmenter ta sensibilité aux hormones dans ton corps. Ne pas offrir à ton corps des pics absolument énormes à amortir et à la fois des périodes de contre-hypoglycémie, ce genre de choses. Donc oui, le sport permet de lisser ces courbes-là. En fait, le sport permet de lisser ces courbes-là, notamment parce que, je crois que c'est ça, notamment, parce que dans tes paquets de glycogène, en fait, dans tes réserves tampons au niveau de tes muscles, tu vas tout consommer, ta session, et ensuite, au moment où tu vas reprendre du glucose, ce sera beaucoup plus facile de le mettre un peu sous le tapis, enfin, rapidement le dispatcher dans ces zones-là, quoi. Et donc, t'auras moins besoin de le traiter par le circuit lent, qui est le circuit de stockage sous forme de masse adipeuse.
Je crois qu'il n'y a plus de questions affichées dans le chat. Ouais,
je voulais intervenir en train de lire
librement. Allez-y, ne vous gênez pas.
Pour faire un petit point sur le diabète type 1, donc c'est diabète insulino-dépendant qui va arriver chez les personnes assez jeunes. Les causes probables, parce que c'est pas encore bien déterminé, ce serait un facteur héréditaire. majoritairement. Pour le diabète de type 2, on parle du mode de vie couplé à un facteur héréditaire. Ah, c'est pas pour moi la source. Et donc, les risques peuvent être diminués en pratiquant. De toute façon, le sport en soi, c'est ça peut avoir une incidence sur la gestion du glucose. Ça peut avoir une incidence sur les circuits immunitaires. Ça a une incidence sur plein de choses en fait.
Il est de notoriété que le sucre et par conséquent le glucose est addictif au point d'être devant certaines drogues. On comprend que cela est nocif pour la santé comme toute substance addictive. Oui. Clairement, le sucre, c'est une substance ultra addictive. Naturellement, on ne trouve pas beaucoup de sucre dans la nature. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Pourquoi ? Parce que on a mis tout un tas de process industriels en place qui permettent de raffiner le sucre de canne, le sucre de betterave, ce que tu veux. Et donc, du coup, d'en avoir des pots complets dans nos placards. Et donc, du coup, notre corps n'est pas forcément fait pour gérer du sucre à l'état pur comme ça. Le truc aussi, c'est que le sucre, c'est pas quelque chose qui va instantanément faire du mal. Du coup, c'est un peu pervers parce que tu peux en consommer plein et te dire bah en fait c'est pas très grave puisque je suis pareil hier que maintenant. Alors qu'en réalité, non. En réalité, t'es en train de mettre en place un mécanisme de dépendance et donc tes hormones sont de moins en moins détectées, etc. etc. quoi. Alors que des drogues un peu plus violentes, en général, quand tu en prends trop, tu le comprends et tu t'arrêtes tout de suite. J'ai aucune addiction au sucre, je suis pas fan de sucré perso. Alors ça, c'est un mystère. c'est une vraie question que je me pose. Il y a des gens en effet qui ne sont pas sucrés. Est-ce que les aliments et boissons zéro sucre sont entre guillemets meilleurs pour la santé du coup ? Non. Non, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les capteurs dans ton corps de la sensation de sucré vont s'activer. Donc ton corps va répondre « Ah ouais, ok, cool, j'ai le plaisir du sucre. » Mais en réalité, les effets physiologiques ne seront pas là, c'est-à-dire l'énergie qui traîne dans ton sang. Tu vas juste activer les mécanismes de sensation, mais pas les mécanismes suivants. Et donc, en général, ce qui se dit, c'est que... C'est juste ce que j'en entends sur le sujet. En fait, t'as quand même envie de manger du sucre derrière. Et donc, en fait, si jamais tu manges trop de boissons zéro sucre, tu risques en fait à terme de manger tout autant de sucre que de boissons zéro sucre. Et en fait, tu n'auras pas résolu le problème. Et puis l'aspartame et d'autres dérivatifs, c'est presque. Ouais. J'ai pas d'argument sur ça. Mais en effet, c'est pas l'idéal en fait. Ce serait un peu l'équivalent d'un patch en fait pour le tabagisme. Peut-être. Le but c'est de si ton but c'est d'arrêter de fumer en fait t'as pas mettre des patchs tous les jours de ta vie en fait restante. dans le médical, les seules boissons recommandées, c'est de varier les différents types d'eau et des jus de fruits pressés. Oui, c'est en fait, de manière générale, en alimentation, enfin, le fait de varier, ça n'a que des bénéfices. Il y aurait plein de choses à en dire sur ça, mais ça n'a que des bénéfices. Les types d'eau, oui, ce serait du coup pour les minéraux qui sont à l'intérieur. À la fois pour apporter ceux qui ne seraient pas dans l'autre eau que vous avez bu, mais aussi pour éviter d'être en surconsommation d'un minéral. Pour les jus de fruits pressés, en fait, si jamais vous aimez beaucoup les jus de fruits, le mieux, ce qui existe, ce serait les smoothies, du coup, qui, dans lesquels on a laissé les fibres, dans lesquels on a juste mixé le fruit. Ça reste une manière d'accélérer en fait la courbe glycémique qui va en résulter, mais une manière qui sera pas aussi forte que juste un jus de fruits voilà, sans aucune fibre. Mais en disant ça, attention au smoothie avec sucre ajouté, bien sûr.
Après, si je peux me permettre, par rapport au type d'eau, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, si y a des gens qui sont en hyperkaliémie, donc un trop fort taux de potassium sanguin, par exemple, on va éviter les eaux comme l'épargne ou des eaux qui sont très chargées en minéraux. En fait, il faut adapter ça à chaque personne, en fait, c'est en fonction de son bilan sanguin. D'où l'importance d'aller faire des bilans sanguins réguliers et de suivre les conseils du médecin.
Oui, en effet, on a chacun en fait des profils d'absorption de nutriments et oui, en effet, certains vont peut-être absorber moins bien, je sais pas, n'importe quoi, le fer en fait, ou j'en sais rien. Et d'ailleurs, il va moins bien absorber ou mieux absorber certains nutriments consommés avec d'autres. Donc oui, ça reste à chaque fois personnel. C'est difficile de faire des généralités, genre il faut que tout le monde boive de la Evian, j'en sais rien. Alors je suis pas super habitué avec ce mode de fonctionnement, mais je crois que Melk, t'as une question, si t'as mis un point d'interrogation.
Oui, enfin j'étais plutôt.
Ça veut dire ça.
Ouais, ben, c'était plutôt un constat d'ailleurs qu'une question. C'est que à une époque, je me rendais compte que la nuit, j'avais des grands coups de soif à me réveiller et à vouloir boire un litre d'eau. Et naïvement, au début, je me suis dit qu'il fallait que je m'hydrate mieux avant de dormir. Mais du coup, c'était une fausse solution parce que ça donne envie de se lever pour aller aux toilettes. Et en fait, c'était simplement que je buvais pas assez d'eau durant la journée et que c'était pas assez étalé. Et en se forçant à boire un peu plus d'eau de temps en temps, ça arrivait évidemment le problème. Et dans le même ordre d'idée, de boire un grand verre d'eau dès le matin au réveil, avant le café ou le thé ou le jus ou les céréales, je me suis rendu compte que ça me réveillait bien mieux, ou vachement bien, presque mieux que du café en fait. Donc c'est important de bien boire de l'eau.
Ouais, non, clairement, alors après, se réveiller la nuit pour avoir une grande soif, c'est. Ça devait être quelque chose. Après, souvent, il y a un truc, c'est que le soir, on a souvent tendance à ne pas boire. Parce qu'on n'a pas envie de se lever pour aller aux toilettes. En réalité, c'est vrai que la nuit, c'est quand même une période assez longue pendant laquelle on va être. On ne va apporter rien du tout. Donc, si on voulait être sympa avec son corps, en fait, il faudrait boire un verre d'eau avant de se coucher, en fait. Histoire d'avoir un apport, voilà, avant de passer cette espèce de période de 7 ou 8 heures sans boire. Bien entendu, le plus important, c'est pas tellement ça. Le plus important, c'est d'avoir un apport continu de tout, en fait, y compris d'eau, tout le temps. Et je sais que j'avais un ami qui s'était blessé justement au sport, à cause d'un manque d'hydratation. Et pourtant, il avait dit mais non, enfin, j'ai bu avant ma session, j'ai bu beaucoup avant ma session. Ouais, c'est vrai, c'était vrai, mais il n'avait pas bu toute la journée. Au contraire, c'était un des jours dans lesquels il avait le plus négligé le fait de boire. Et donc, du fait que l'hydratation n'était pas apportée toute la journée, risque de blessure et crac, blessure. C'est une blessure assez chiante d'ailleurs.
C'était quoi comme blessure ? Un claquage ?
C'était une blessure à l'escalade. C'était rupture de poulie, je crois qu'on appelle ça une poulie au niveau de d'une phalange d'un doigt.
Ah ouais, c'est chiant ça.
Ouais. Souvent ça veut dire arrêt plusieurs mois et. Enfin voilà, arrêt complet.
Oui, les ligaments croisés, c'est 6 mois d'hospitalisation.
Donc, en l'occurrence, il s'était pas croisé, mais bon, oui, c'est. Ah, bonne question. Qu'est-ce que le jeûne intermittent et la glycémie Alors, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui. Bah, c'est pareil, c'est un peu à la mode, j'ai l'impression. J'ai pas de source claire qui montre que le jeûne intermittent est plus intéressant pour un truc ou plus intéressant pour un autre truc. Il y a des arguments qui montreraient que c'est intéressant ou pas de faire du jeûne intermittent. Mais il n'y a pas non plus d'études qui montrent que on peut pas bénéficier de ces effets-là sans le faire. Enfin, comment dire ? Du coup, c'est pas quelque chose qui est forcément nécessaire si tu veux les bénéfices de ça. Notamment, dans les bénéfices, tu aurais le fait de détoxifier ton corps, tu aurais le fait de faire rentrer dans ton corps dans des... En fait, dans les arguments, il y a le retour, en fait, si on se projette en fait dans le passé, nos ancêtres devaient probablement avoir des périodes pendant lesquelles ils ne mangeaient rien pendant longtemps. Donc notre corps serait construit d'une manière qui bénéficie de ça. Le fait de tout le temps manger, toutes les 4 heures, machin, empêcherait notre corps d'activer certains mécanismes biologiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, oui, il existe plusieurs recommandations. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment un seul jeûne intermittent, il y en a plusieurs. Il y en a qui vont te dire rien manger pendant 16 heures par jour, enfin pendant des plages de 16 heures. Ce qui signifie que si tu manges le matin à 8 heures, alors du coup je fais le calcul, donc 8, il faut que la veille tu aies fini de manger à 16 heures, c'est ça ? Donc 16 heures de jeûne intermittent. Il y en a qui vont te recommander 14 heures, il y en a qui vont te recommander moins. Donc c'est pas une science exacte. Dans tous les cas, par contre, ce qui peut être dit, c'est que c'est pas mauvais. Enfin, il n'y a pas non plus d'effet mauvais à fonctionner comme ça qui a été montré. En fait, souvent, on a tendance à penser que nos repas, donc en France, le matin, le midi, le soir, vers 19-20 heures, c'est quelque chose qui participe de la bonne santé de notre organisme. En réalité, non, parce qu'il y a des pays dans le monde dans lesquels les repas sont à des horaires différentes. Il y a eu au cours de l'histoire, en fait, c'est pas possible en fait que un repas ait été pris régulièrement tous les jours, machin. Donc en réalité, les timings des repas, c'est quelque chose auquel notre corps s'est habitué. Et par contre, ce qui est plutôt important, c'est qu'une fois que un timing de prise d'énergie, enfin de prise de nutriments, tu t'y fixes. Ça, c'est le truc le plus intéressant. C'est-à-dire que tu auras des personnes qui vont dire bah ouais, moi je n'arrive pas à manger le soir, j'ai vraiment pas faim le soir. Ah, ok, mais dans ce cas, mange bien le matin et le midi, c'est vraiment bien. Et le soir, c'est pas très grave. Pareil pour le matin. Des gens qui vont pas avoir faim le matin. Bah en soi, c'est pas grave si le reste de la journée tu manges ce qu'il faut.
Parce que du coup, JB, dis-moi si je me trompe, mais le risque et l'intérêt du jeûne, l'intérêt, c'est que ça peut faciliter l'élimination de choses en trop dans ton corps, mais le risque, ce serait de commencer, par exemple, à taper dans tes sucres lents ou dans tes graisses.
En fait, c'est pas tellement qu'il y a un risque. Enfin, au final, je pense que le plus gros risque, en fait, dans le jeûne, ce serait de pas boire pendant que tu jeûnes. En vrai, tu vois, par exemple, alors c'est pas du tout. Par exemple, je crois que c'est le Ramadan. Il y a une histoire de jeûne pendant la journée. Y compris de restrictions d'eau, en fait. Et ça, pour le coup, autant le jeûne pendant la journée, ça s'entend, c'est ok, mais autant ne pas boire, ça peut être dangereux, surtout si vous travaillez, si vous êtes dans un environnement, si vous faites de l'activité toute la journée, si vous vous déshydratez, voilà. Mais sinon, en soi, si vous habituez, en fait, si on habitue notre corps à ne pas manger, bah en fait, ça sera ok. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si vous commencez par jeûner alors que vous êtes habitué à avoir des repas réguliers, vous allez commencer à avoir très très faim, de plus en plus faim, ça va faire mal à l'estomac, et ensuite, il y aura un moment donné, vous n'aurez plus de sensations. Parce qu'en fait, alors du coup là, les théories, c'est en gros, du point de vue évolutionniste, c'était important de montrer à ton corps que pousser ton organisme à aller chercher de la nourriture. Mais si jamais la privation de nourriture est trop longue, alors c'était plus intéressant d'ignorer ce non-apport, plutôt que de constamment rappeler, parce que du coup ça pouvait t'empêcher de te concentrer ou de dormir et du coup priver d'autres besoins, quoi. Enfin, mais soit il n'y a rien de dangereux tant que c'est fait dans des proportions on va dire raisonnables. Et typiquement, donc qu'est-ce que ça veut dire une proportion raisonnable? Je suis pas spécialiste de ça, mais typiquement jeûne intermittent d'amplitude on va dire de 14 heures. Si le reste de la journée, tu manges ce qu'il faut et tu n'es pas en carence de quoi que ce soit au petit-déj et le midi, en fait, il n'y a aucune contre-indication à ça. En tout cas, pas de... à ma connaissance. Oui, tout régime ou jeûne doit faire l'objet d'une consultation médicale au préalable pour éliminer les contre-indications avec son état de santé. Ouais, je suis d'accord. Disons que si ton but c'est d'essayer de faire un jeûne, c'est plus intéressant d'aller voir un médecin avant, que tu risquerais de te faire mal sinon. Le sans gluten. c'est un gros débat, le gluten aussi. J'ai pas trop d'avis sur la question. Black Jason, moi je ne bois que du café le matin et je mange vers 14h. Tu manges que à 14h dans la journée? Donc moi aussi, donc j'imagine que ça signifie que vous ne mangez qu'un repas par jour. Alors que un repas par jour, c'est deux. Ok, donc le matin et le midi. En vrai, deux c'est ok. Hein. Enfin, ah, 14h et 21h, donc pas de petit déj. Ouais, donc du coup tu fais partie des personnes qui probablement n'ont pas faim le matin. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et globalement qui ne s'explique pas trop non plus, puisque en fait le matin donc tu as passé une nuit dans laquelle tu n'as pas eu d'apport, donc en général ta glycémie est au plus faible et donc tu devrais avoir faim, mais certaines personnes en effet n'ont pas de faim et ça n'est pas, enfin il n'y a pas de raison voilà. J'avais faim avant 11h. Alors, ceci dit, c'est vrai que tu peux ne pas avoir faim, parce que ça, c'est la sensation. Par contre, si on regarde les chiffres, dans ton sang, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans ton sang, je suis quasiment certain que ta glycémie est au plus bas. Ce qui signifie que tu dois peut-être avoir de moins bonnes capacités de concentration. Tu pourras peut-être pas aller, je sais pas, courir aussi vite que si tu étais. Je sais pas. Mais du coup, voilà, ça a quand même des conséquences. Même si tu n'as pas faim, ça a quand même des conséquences. C'est probablement pourquoi je reste en bonne corpulence tout en faisant plaisir. Après, en fait, de toute façon, par rapport à ce que tu comptes, en fait, ton corps, en fait, si jamais il a en général, hein, si ton corps a des besoins, il te le fera comprendre d'une manière ou d'une autre. Si c'est une carence trop grave en vitamines, on va dire, tu peux te blesser, tu peux, voilà, mais tu finiras par te le faire comprendre. Et donc si jamais tu es en bonne santé avec deux repas par jour, il n'y a pas de la même manière que tu pourras aussi être en bonne santé avec, je sais pas, je dirais une bêtise, 6 repas par jour, donc 4 repas et 2 collations. Si tes collations sont équilibrées, qu'elles sont, on va dire, petites, variées, et que tes repas aussi sont petits et variés, en fait, il n'y a pas forcément de contre-indication. Mel, que tu as envie de réagir, je crois.
Oui, c'était pour proposer à Amel d'intervenir. Elle voulait dire quelque chose, mais elle est un peu timide et elle apprend le français. Alors, c'était pour l'inviter à parler et à prendre la parole. Vas-y, Amel, on t'écoute.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
Très bien. Concernant le jeûne, c'est tout. En tant que je suis musulman et j'ai jeûné, je vois que le jeûne, c'est très important pour les organes de corps et surtout pour l'estomac et aussi oui. Parce que je pense que il fait l'estomac, il fait se reposer l'estomac. C'est ça.
Ouais.
Parce que je n'arrive pas bien à s'exprimer, oui.
On a compris. En gros, ce que tu dis, c'est que le jeûne a des vertus bénéfiques sur certains organes du corps, puisqu'il les laisse se reposer. Donc oui, en effet, ce sont les personnes qui font du jeûne volontairement, ce sont les raisons pour lesquelles ils le font. Aussi une augmentation, un meilleur système immunitaire après. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on a pu forcément mettre en évidence de manière. C'est pas quelque chose qui a été très étudié. Donc c'est quelque chose sur lequel je peux pas forcément dire oui, c'est sûr, c'est certain. Voilà. Quel problème rencontrer chez les personnes hospitalisées sous intraveineuse? Waouh! C'est ultra spécifique comme question. Là, pour le coup, il faudrait préciser. J'ai entendu dire que c'était mieux 5 repas par jour. Bah, de la même manière que jeûne intermittent, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, la raison aussi pour laquelle on mange, on va dire en France, 4 repas par jour, c'est une raison sociale en fait. C'est parce que ça correspond à des rendez-vous dans lesquels les gens se retrouvent. D'autres pays dans le monde dans lesquels les rendez-vous sont à d'autres horaires. Pour le coup, dans le cas du Ramadan, il me semble que ça fait partie le soir, il me semble que tout le monde se retrouve pour manger des gros repas. Donc c'est aussi un truc social en fait. Après, de là à dire plutôt 5, c'est plutôt 2 ou 1, je sais pas si on peut vraiment. En fait, ton corps, globalement, ton corps va s'adapter. Il y a plein de mécanismes dans lesquels ton corps s'adapte à ce que tu lui envoies comme environnement. Genre le sommeil, tu peux adapter ton sommeil, tu peux te lever plus tôt, te coucher plus tard, tu peux dormir en 2 fois, en 3 fois dans la journée, avec du sommeil polyphasique, tu peux manger en X fois par jour, en fait ton corps s'adaptera. Ça fait 10 ans qu'on parle des bénéfices du jeûne. Mais à mon avis, si on n'a rien trouvé jusque-là, 3 petits points. Du coup, ça fait douter, mais d'un autre côté, pas forcément. Parce que c'est pas parce qu'on n'a rien trouvé. Enfin, en fait, on n'a pas forcément cherché. Et peut-être ça explique aussi pourquoi on n'a rien trouvé. Donc je sais pas s'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet.
Bon, j'ai quand même pas mal de retours de proches qui pratiquent des jeûnes, que ce soit par presque par plaisir ou non, peu importe, qui quand même me font souvent comme retour que passer un certain cap, ou comme tu disais d'ailleurs, le corps réclame de la faim et que c'est dur au début, qu'il y a des paliers à passer, et que passer ces paliers, les intérêts qu'ils y trouvaient, c'était pas tant au niveau du corps, bien qu'ils se sentaient bien dans leur corps après, mais beaucoup me confirmaient que ça leur aidait à avoir des réflexions qu'ils n'avaient pas forcément avant, que ça faisait cogiter différemment, quoi, vraiment. Alors j'ai pas pu tester moi-même pour confirmer, j'ai jamais réellement fait de jeûne plus de 24 heures, on va dire, mais ouais, intéressant de ce côté-là, je trouve, pour le côté où...
T'as un exemple de chose à laquelle ils réfléchissaient après ?
Non, c'était pas des idées concrètes ou précises, c'était dans des états d'esprit qu'ils n'avaient pas l'habitude. J'imagine qu'il y avait un côté où ils se sentaient plus sereins, plus calmes, et que du coup ça leur donnait des réflexions qu'ils avaient beaucoup moins l'habitude d'avoir quand ils étaient plus occupés, plus stressés, ce genre de choses. Après, c'était aussi quand ils pouvaient se le permettre, parce qu'ils n'avaient pas quelque chose de trop contraignant en termes d'activité à côté, qui leur demandait de l'énergie, etc. Ou qu'ils avaient un peu de temps de libre, ou plusieurs jours devant eux. Mais que, outre l'intérêt à leur dire, ça faisait du bien au corps, parce que ça le purifiait, et ça, ben, comme vous dites, c'est prouvé, pas prouvé, s'il y a du flou. Mais qu'en tout cas, dans une volonté presque spirituelle, on pourrait dire... ça les amenait à des considérations, des constats assez intéressants.
Euh, Tout à fait. Enfin, je suis assez d'accord. Pour le coup, ça m'est... En fait, justement, il y a quelques mois, je commençais en mettant en pratique en fait tous les éléments que j'ai pu donner ce soir, avoir de moins en moins faim et à la limite ne plus avoir besoin de manger que un repas par jour. Et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que ça ça rend, je sais pas, plus zen. Enfin, je sais pas en fait comment dire, mais Brassens, surtout que pour les gens qui font le ramadan, le pic glycémique explose lors du repas du soir. Oui et non. Bah après, ça dépend ce que tu manges le soir, en fait. En effet, si tu manges des pâtisseries tunisiennes, oui, ton pic glycémique va exploser. Après, avec un repas par jour, tu peux quand même faire en sorte d'avoir une courbe la plus lisse possible.
Tu voulais intervenir à l'oral, Brassens, vas-y.
Ouais, ben j'irais dans le sens de Melk, quand il reportait les témoignages de gens qui faisaient un jeûne et qui avaient des sortes de périodes de lucidité, périodes. Alors, c'était plus des périodes de forte réflexion plutôt que périodes zen, d'après ce que tu dis. Melk.
C'est un peu les deux. J'imagine que le côté zen, c'est lié au fait que comme ton corps a entre guillemets moins d'énergie, ben, de fait, t'es plus calme en fait.
Moi, ça me fait penser, peut-être que s'il y en a qui font que j'ai retrouvé en fait chez certains informaticiens, des gens qui font de la programmation, etc. C'est, on pourrait peut-être le rapprocher aussi du sommeil en fait et de ce que certains appellent la zone, ou une, je sais plus comment ils appellent ça, mais en fait c'est un moment, le soir, tu es fatigué, et après un certain seuil, après une certaine période, là en pleine nuit, bah, tu peux avoir un pic de concentration alors que tu es censé être exténué, etc. Quoi. Et ça me fait penser à ça, quelque chose que j'ai déjà vécu, et de même pour... Pour la nourriture, en fait, il y a eu des journées où, en fait, le matin, le midi, j'ai pas mangé. Et en fait, j'ai eu des après-midi vraiment très productives, en fait. Et alors pour la nuit, en fait, c'est à 23h minuit, tu es un petit peu fatigué. Sauf qu'à 1h du matin, si tu restes éveillé, et si tu continues un petit peu à travailler, bah, tu as quand même une montée de concentration, de productivité, quoi.
Ouais, je vois à quoi tu fais référence. J'ai aussi vécu ça, donc je le vois. Et en fait, ça, c'est une autre hormone encore. Ça va être l'adrénaline, tout simplement. Pour le coup, c'est pas lié à ce que tu manges, c'est pas lié à ton sommeil. C'est que quand tu mets ton corps dans un état qui est trop difficile, enfin qui le met trop à l'épreuve, il va se mettre à générer de l'adrénaline qui va te booster en fait, qui va juste te donner une version de toi qui sera beaucoup plus tout. Et tu peux avoir ces périodes-là, ces périodes de super concentration. Par contre, c'est comme tout, c'est-à-dire que tu peux le faire pendant quelques heures, mais si tous les jours tu te mets dans une situation dangereuse mais complexe, et que ton corps répond à cette situation en envoyant de l'adrénaline, tu vas finir par avoir des problèmes de liés à ça. Typiquement, tu vas arrêter de dormir, tu vas arrêter de te nourrir, enfin pas forcément les faire chercher, quoi.
Oui, voilà, mais c'est...
Et oui, tu peux rentrer dans ces phases là temporairement, oui.
Ce à quoi Melk faisait référence, c'était plutôt des jeûnes occasionnels, en fait, je pense, non ?
Oui, effectivement, dans les personnes qui faisaient ça, c'était... Oui, c'était occasionnel.
Et je crois qu'on peut aussi, pour terminer, après je vous laisse tranquille, je crois qu'on peut aussi, justement, bon, tu parles de l'adrénaline, j'avais complètement oublié ce facteur-là, mais on peut aussi bah, justement avoir une sorte de boost, de montée d'adrénaline avec, durant une période calme, d'un coup, tu te mets de la musique bien vénère à fond, quoi. Et là, ça peut te booster aussi, effectivement. Donc, on peut peut-être le relier aussi à ça, quoi. Enfin, des situations où, justement, on fait en sorte d'être un petit peu stressé. Alors, stressé, c'est un mot trop générique, mais être un petit peu bouleversé, quoi. Histoire de déclencher une réaction nerveuse, hormonale, etc.
C'est ça, en gros. C'est exactement ça. Ton corps, si tu le mets dans une situation de stress, en fait, il va te donner les moyens de surmonter cette situation. Si les mécanismes de nutrition chez les personnes en bonne santé sont identiques, les variations d'un individu à l'autre peuvent être importantes. Le but n'est-il pas de trouver son équilibre qui peut être identique à celui de son voisin? Oui, exactement. On est tous différents. On a tous des besoins différents. Par contre, le nombre de variables est tellement grand, enfin le nombre de choses auxquelles tu dois faire attention chez toi est tellement grand que ça peut. Enfin, comment dire ? On a forcément besoin de mettre des règles du type typiquement la vitamine C, il en faut telle quantité environ, voilà. Pareil pour ceci, cela. Et alors après, bien sûr, du coup, quand t'es un enfant, t'as besoin de plus de calcium, je sais pas, t'as besoin de plus de. Je sais pas quoi. Quand t'es une femme enceinte, t'as des besoins qui sont différents. Quand t'es âgé, pareil. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de la variété dans ce qu'on mange. Et c'est aussi pour ça que du coup, manger varié, en fait, c'est une des clés pour avoir un équilibre, mais un peu au hasard, tu joues sur. Tu prends pas trop de risques, quoi. Tu manges de tout, et donc t'espères que. voilà. Le jeûne rend plus résistant à la faim. Les personnes qui font des activités très très épuisantes le pratiquent. Ça te permet, on peut dire, de te préparer à 2 semaines de pénurie alimentaire. oui, ça rend probablement plus résistant à la faim. Certainement, oui. Mais là où je te rejoins, c'est que derrière, ton corps a forcément des besoins. Peu importe si t'as faim ou t'as pas faim, t'as des besoins en eau, t'as des besoins en glucose, etc. D'un autre côté, si jamais ton corps, il peut quand même faire des réserves de certaines choses. Et le but en ayant un apport continu, c'est justement que jamais ça t'arrive de tomber dans une situation de manque de quelque chose. À propos des compléments alimentaires en vitamines, certains ont-ils été montrés comme utiles, et si oui, dans quelle situation ? Oui, de toute façon, tous les compléments alimentaires peuvent être utiles. Pourquoi ? Certaines personnes vont avoir des intolérances à des aliments. Donc dans ce cas, on va pouvoir leur compléter. En soi, par exemple, un exemple assez basique, le sel. Pourquoi est-ce qu'on mange autant de sel aujourd'hui ? Parce qu'à une époque, il y avait une maladie qui était le crétinisme des Alpes, qui se déclarait quand les gens n'étaient pas assez en contact avec l'iode, si je dis pas de bêtises. Donc on a vendu du sel à tout le monde, du sel iodé, du sel marin, dans lequel on était sûr que les gens plus jamais seraient crétins des Alpes. Donc des compléments, en fait, oui, ça peut être important dans pas mal de conditions. Si jamais t'es pas dans une région maritime, je sais pas, si jamais... Après, t'as aussi des cas où t'as des personnes qui peuvent moins bien assimiler certaines certains nutriments, genre le fer. Dans ce cas, on va te complémenter en fer. Je lis les questions. Les conséquences des perturbateurs endocriniens sur notre corps et alimentation. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, mais qui dit perturbateur endocrinien, déjà dans le terme, il y a un truc qui cloche, quoi. Enfin, c'est pas forcément le but de perturber comment ton corps fonctionne, c'est plutôt de l'accompagner dans ses besoins. Influence du cycle hormonal chez les femmes sur leur métabolisme. Pareil, bonne question. Là, comme ça, j'imagine que ça peut déclencher. Alors, attends, sur leur métabolisme. Pour le coup, sur leur métabolisme, là, j'aurais du mal à répondre. L'acidocétose provoquée par la dégradation des lipides peut donner des troubles de la conscience jusqu'au coma. Alors là, pour le coup, c'est une maladie que je ne connais pas, que je n'ai pas trop creusée. En tout cas, ce qui est certain, je sais pas si c'est lié, ton cerveau a forcément besoin d'acides gras les plus insaturés, en fait. Donc tout ce qui est oméga-3, typiquement, oméga-6. Et si tu n'en apportes pas assez... La chose qu'il va essayer de faire, c'est essayer de compenser ces oméga 3, enfin par des oméga autres que 3, on va dire. Ce qui, au final, l'empêchera pas de fonctionner, mais réduira ses capacités. Idem pour la vue, pour l'ouïe. Enfin, il y a des fonctions du corps comme ça qui ont besoin d'acides gras les plus insaturés possibles. Et si jamais tu ne les fournis pas, ton corps compensera avec des oméga moins saturés, mais tes fonctions seront moins efficaces. Donc typiquement, tu risques d'avoir une vision moins bonne, tu risques d'avoir une ouïe moins bonne, et de porter des lunettes. Les véganes qui prennent des compléments alimentaires pour supporter leur régime alimentaire, c'est vraiment logique et bon. C'est une question que j'ai pas mal creusée aussi. En réalité, dans le régime alimentaire vegan, il n'y a que une seule. Si tu fais vraiment la cartographie de tous tes besoins, de tous tes besoins connus. Parce que en réalité, quand on dit vitamine A, B, C, ce que tu veux, parce qu'on a cartographié que c'était des besoins. Encore des nutriments, on ne sait pas forcément si on en a besoin ou pas. Un exemple, l'arsenic. L'arsenic, on ne sait pas en fait si on peut, enfin, si s'en passer complètement, donc vraiment avoir 0,00, ce serait être en meilleure santé que d'en avoir un petit peu. Donc si on prend les besoins alimentaires connus, il n'y a qu'un seul besoin que le régime alimentaire vegan ne peut pas apporter, c'est la vitamine B12. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être apportée par le régime vegan? C'est parce que, il y en a dans les plantes, dans les végétaux, mais comme les sols sont utilisés trop intensivement, la B12 n'a pas le temps de se régénérer dans les végétaux suffisamment rapidement. Donc, on ne peut pas garantir, et d'ailleurs ce n'est qu'une possibilité, en fait. C'est possible que tu manges vegan en fait, et que tu n'aies jamais de carence en B12, mais c'est trop risqué. Donc en fait, c'est le seul complément que tu es que on te demande de prendre en fait si tu manges vegan. Mais d'un autre côté, c'est intéressant parce que les animaux d'élevage, eux aussi ont des besoins en vitamine B12. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne aussi des compléments alimentaires. En fait, les animaux d'élevage qui ont besoin de B12, on leur donne des cachets de B12. Et ce qui fait que le contre-argument naturel à ça, c'est de dire bah ouais, mais en fait, quelqu'un qui mangerait omnivore, en fait, aurait aussi besoin dans la chaîne alimentaire de cacher B12. Parce qu'en réalité, le problème, c'est plus au niveau de la qualité des sols que du reste. Après, tout le reste, si, en étant vegan et en ayant des compléments, ça s'entend parce que c'est. Parce que voilà, c'est possible pour être sûr, pour être moins dépendant de certaines sources alimentaires qui seraient plus difficiles à trouver que dans de la viande, par exemple. C'est possible que tu prennes du fer, que c'est possible que tu prennes d'autres trucs. Mais c'est pas un besoin. Question de Breton, si je suis un régime alimentaire à base de Queen Amman et de Chouchen, serais-je en bonne santé? Je fais appel au public. J'utilise mon joker. L'acide,
c'est oui.
La réponse est oui.
Oui, pour le Queen Amman, oui, c'est sûr.
Ben voilà. Inversement, tu peux manger de la viande et être en carence de B12. Bah oui, ce serait possible, ouais. Ouais.
D'ailleurs, Brassin, je te conseille de mettre un peu de beurre sur ton Queen Amand, parce qu'il n'y en a pas assez d'habitude.
Brassin, c'est en train d'écrire un pavé. Pour la B12, je crois que c'est uniquement produit par des bactéries, donc on peut avoir des petites traces sur les légumes, racines. Peu, aliments fermentés peut-être, racines de... Enfin, passer à tester. Oui, il y a probablement ça. C'est probablement les levures uniquement qui en contiennent et qui du coup en déposeraient. En tout cas, je crois que la levure de bière est une bonne source de B12. Pas dire de bêtises, mais...
Je sais qu'il y a des fermes où... je connais une ferme qui fait ça, c'est à côté, il y a une brasserie de bière. Et ils donnent en fait toutes les levures usées aux vaches pour justement leur apporter cette vitamine-là. Bon, le lait n'a pas plus de goût, mais ça permet justement de compenser ça. J'avais pas fait le lien par rapport à ça, mais au final, c'est peut-être pour ça.
Bon, je vais bientôt aller peut-être attendre le pavé de Brassens qui en intéressera peut-être certains. Pardon, je t'ai coupé, JB.
T'avais une question à poser, c'est ça?
Non, juste, je disais que j'allais aller arrêter les bots d'enregistrement, mais qu'avant, peut-être attendre de voir ce qu'avait à dire Brassens.
Yeah. Juste pour une précision par rapport à tout ce qui est carence de vitamines, en général, c'est quelque chose qui met un peu de temps à arriver. C'est-à-dire que si vous avez un niveau stable de B12, on va dire, il faut environ 6 mois, voire 1 an, avant que vous ayez vraiment les effets des carences qui commencent à arriver. Ça ne veut pas dire que c'est bien de ne pas en manger pendant 6 mois, mais ça veut dire que, enfin, on a quand même un peu de marge par rapport à ça.
Et à l'inverse, un surdosage de vitamines peut aussi être un poison.
Oui, tout à fait. tout à fait, un surdosage peut être nocif. Et ça, un exemple de ça, on le retrouve chez les Inuits qui mangent quasiment que des poissons d'eau froide, qui sont bourrés d'oméga 3. Et ça leur cause des vrais problèmes de santé. Genre, je sais pas si tu peux en mourir, mais pas loin. Et en fait, c'est marrant parce que à la télé, on entend, enfin dans les pubs, on entend tout le temps qu'il faut manger des oméga 3. En réalité, non. Ce qu'il faut, c'est avoir un équilibre entre ça et le reste. Et il se trouve que, en fait, si on regarde à peu près tout ce qu'on mange et qu'on fait la moyenne, c'est un truc qui est en déficit. La levure aux vaches, c'est surtout plein de nutriments pour pas cher si les vaches ne vont brouter dans le pré. Si elles le font, alors elles mangent de la terre et des insectes, plus comme elles sont polygastriques à digestion lente, elles ont un système de nutrition basé sur les bactéries protistes du système digestif. Possible. Alors là, pour le coup, l'alimentation animale dans l'élevage, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Selon toi, à quel niveau les nutriments agissent sur le fonctionnement de notre système nerveux central? Autrement dit, quelle est leur influence sur le fonctionnement de la pensée? En fait, dans ton corps, tu as tout un tas de cellules différentes. Pourquoi on a besoin de vitamines? Les vitamines, ça fait partie donc des micronutriments, des trucs qu'on a besoin en très petite quantité. Parce que c'est des choses qui sont assez spécialisées, mais qui ne servent pas à beaucoup. Donc c'est. En fait, forcément, ça va. Une carence en n'importe quoi va forcément empêcher certaines fonctions de ton corps bien précises de fonctionner correctement. Y compris ton système nerveux, oui. Et pour le coup, par rapport au cerveau, la carence la plus souvent observée, ça va être la carence en acides gras polyinsaturés, donc oméga 3, 6.
Et pour les gaines de myéline des synapses.
Voilà. Et à l'inverse, du coup, tu peux avoir des antinutriments, donc souvent des métaux lourds, type plomb, qui vont pouvoir, si tu en consommes trop, vont créer des blocages et qui vont perturber le fonctionnement classique, les échanges classiques de tout, en fait.
Eh bien, je vais aller couper les bobs d'enregistrement. Merci pour ceux qui réécouteraient ce podcast. Merci à toi, JB. Excellent. Merci à tous ceux qui sont intervenus.
Merci. Merci à toi, merci à vous.
Est-ce que tu veux dire une petite conclusion, quelque chose, un point? Oui.
Du coup, je lis rapidement. Il y a aussi les neurotransmetteurs ou récepteurs contenant des métaux. Donc, la carence limiterait le fonctionnement du cerveau. Dont la carence limiterait le fonctionnement du cerveau. Oui, en fait, dans tous les cas, on a des besoins en métaux, en fait. Enfin, on a des besoins en fer, on a des besoins en... Enfin, le fer, en fait, si tu regardes une barre de fer, en fait, oui, c'est beaucoup de fer. En fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est des toutes petites paillettes de fer, en fait. Même pas des paillettes, c'est encore plus petit que ça. Et de tout un tas d'autres métaux, comme le zinc, le cuivre, les plus importants, enfin voilà. Et donc, est-ce que la pensée, la mémoire et autres processus cognitifs peuvent être augmentés? Oui. Augmenter, tu as une limite. Tu as une limite physiologique, mais oui, tu peux augmenter tes capacités cognitives en apportant tout ce qu'il te faut, en fait. ce qui permettra à ton corps d'être dans sa forme la plus, enfin dans son fonctionnement le plus fluide, tu fluidifies tous les échanges et tu ne crées pas de blocage quelque part. Ouais. Et après, donc là, ça, là on parle de s'augmenter une fois, enfin dans notre vie, mais il y a un moment de la vie qui est particulièrement important pour, entre guillemets, s'augmenter, c'est le moment où une femme est enceinte, et à la fois des carences ou des je sais pas moi, des fait de fumer, ou au contraire le fait d'apporter tout ce qu'il faut, peut donner lieu à un enfant qui aura des maladies à la naissance, ou au contraire qui aura des capacités très très grandes en fait.
Par exemple, quand les femmes enceintes boire de l'alcool, ça fait des ravages. Ça fait des ravages chez les nouveau-nés de boire de l'alcool pour les femmes enceintes. C'est incroyable.
Ouais, il y en a d'autres aussi, mais en effet, l'alcool, c'est pour ça que toutes les bouteilles sont étiquetées. Hein. Les vitamines B12, appelées... Je suis en train de lire, du coup, Brassens sur la B12. Participe à la synthèse de neurotransmetteurs du système nerveux, indispensable au maintien de l'intégrité du système nerveux et tout particulièrement de la hyène myéline qui protège les nerfs et optimise leur fonctionnement, ainsi qu'à la formation du sang. Voilà, ça peut être la conclusion, Melk.
Ça marche, et puis ça donnera lieu à d'autres livres blancs. Allez, je coupe. Merci.